Les affinités électives, chapitre 4. Le capitaine venait de terminer la carte topographique du domaine de ses amis et des environs. En levant ce plan, d'après les calculs de la trigonométrie, il l'avait rendu exact. La beauté du dessin et l'éclat des couleurs lui donnaient de la vie. Ce travail, cependant, avait été promptement terminé, car il dormait peu et utilisait chaque instant du jour. « Maintenant, dit-il, en remettant cette carte à son ami, occupons-nous d'autre chose, de l'estimation des terres, par exemple, et de la manière d'en tirer le meilleur parti possible. Je te recommande seulement de séparer toujours les affaires de la vie proprement dite. Les premières ont besoin d'être traitées sévèrement et sérieusement, tandis que la seconde s'embellit par l'inconséquence et la légèreté. Plus on met de régularité dans les affaires, plus on a de liberté dans la vie ordinaire. En les mêlant, elles se nuisent mutuellement. » Ces dernières phrases étaient presque un reproche pour Édouard. Jamais il n'avait eu le courage de classer ses papiers. Mais, aidé par un second lui-même, la séparation à laquelle il n'avait pu se résigner fut bientôt faite. Après ce travail préliminaire, le capitaine convertit plusieurs pièces de l'aile qu'il habitait en bureau pour les affaires courantes et en archives pour les affaires terminées. Au bout de quelques jours, les documents qu'il avait trouvés dans les armoires, les cartons et les caisses figuraient dans le plus bel ordre possible, sur des tablettes dont chacune avait sa destination. Un vieux secrétaire, dont le baron avait toujours été fort mécontent, déploya tout à coup un zèle et une activité infatigable. Ce changement l'étonna beaucoup. Son ami lui en expliqua la cause. « Cet homme est utile maintenant, lui dit-il, parce que nous le laissons terminer commodément un travail avant de le charger d'un autre. Le désordre l'avait rendu incapable. » L'emploi régulier de leur journée permit aux deux amis de consacrer les soirées à Charlotte. Parfois, ils trouvaient chez elle des voisines qui venaient lui rendre visite. Mais quand ils étaient seuls, leur conversation roulait toujours sur les réformes par lesquelles on pourrait augmenter le bien-être des classes moyennes. En voyant son mari plus satisfait et plus gai qu'à l'ordinaire, Charlotte aussi se sentait heureuse. Au reste, le capitaine ne négligeait rien pour lui être agréable dans ses arrangements domestiques. En commentant avec elle des livres de botanique et de médecine élémentaire, il l'avait mise à même de compléter sa pharmacie de ménage et d'être plus efficacement utile aux pauvres malades de la contrée. Le voisinage des étangs et des rivières l'avait engagé à s'attacher spécialement aux mesures à prendre pour secourir les personnes tombées dans l'eau, sorte d'accident qui n'arrivait que trop souvent dans le pays. La prédilection avec laquelle il s'occupait de ces sortes de secours autorisa Édouard à dire qu'un accident semblable avait fait époque dans la vie de son ami. Celui-ci ne répondit rien, car il craignait de réveiller ce triste souvenir. Le baron le comprit, et Charlotte, qui connaissait cet événement, se hâta de changer de conversation. Un soir, le capitaine leur avoua que les dispositions qu'on avait prises pour secourir les noyés, quoique aussi sagement combinées que bien exécutées, ne produiraient aucun résultat si on ne se décidait pas à les placer sous la direction d'un homme capable de les utiliser à propos. « Je connais, ajouta-t-il, un chirurgien des hôpitaux militaires, qui est en ce moment sans emploi et qu'on pourrait s'attacher à des conditions très modiques. Quant à son talent, je puis en répondre. Il m'a été souvent fort utile, même dans des maladies intérieures. Au reste, ce qui manque le plus à la campagne, ce sont les secours immédiats, et sous ce rapport, il est parfait. » Les deux époux le prièrent de faire venir ce chirurgien le plus tôt possible, car ils s'estimaient heureux de pouvoir consacrer une partie de leur superflu à une dépense aussi généralement utile. Ce fut ainsi que la société du capitaine devint peu à peu agréable à Charlotte. En utilisant à sa manière ses vastes connaissances, elle acheva de se tranquilliser sur les suites de sa présence au château. Elle prit même insensiblement l'habitude de le consulter sur une foule de précautions hygiéniques, car elle aimait la vie. Plus d'une fois déjà, le vernis de certaines poteries dans lequel il entre du plomb et le vert de gris qui s'attache au vase de cuivre lui avaient causé de l'inquiétude. Le capitaine lui donna à ce sujet des éclaircissements qui les conduisirent à d'instructifs entretiens sur la physique et la chimie. Édouard aimait à faire des lectures. Sa voix était sonore et son débit donnait un charme de plus aux écrivains dont il se faisait l'interprète. Jusque-là, il n'avait employé son talent qu'à des productions purement littéraires. La tournure que le capitaine venait de donner aux causeries du soir lui fit choisir de préférence des traités de physique et de chimie que son petit auditoire écoutait avec le plus vif intérêt. Accoutumé à produire des effets agréables par des inflexions de voix et des pauses ménagées avec art, le baron avait toujours eu soin de se placer de manière à ce que personne ne pût regarder dans son livre. Charlotte et le capitaine connaissaient cette manie. Aussi ne songea-t-il point à prendre cette précaution avec eux. Un soir, cependant, sa femme se plaça derrière lui et regarda dans le livre. Il s'en aperçut et interrompit brusquement sa lecture. « En vérité, dit-il avec humeur, je ne comprends pas comment une femme bien élevée peut se permettre une pareille inconvenance. Une personne qui lit ne se trouve-t-elle pas dans le même cas qu'une personne qui parle? Et se donnerait-on la peine de parler si l'on avait au front ou au cœur une petite fenêtre à travers laquelle ceux qui nous écoutent pourraient lire nos sensations avant que nous ayons eu le temps de les exprimer? » Charlotte possédait au plus haut degré le don de renouer ou de ranimer les conversations qu'un malentendu ou un propos imprudent avait interrompu ou rendu languissante et embarrassée. Cette faculté si précieuse ne l'abandonna pas dans cette circonstance. « Tu me pardonneras, mon ami, sans doute, quand tu sauras, lui dit-elle, qu'au moment où tu as prononcé les mots de parenté et d'affinité, je pensais à un de mes cousins qui me préoccupe désagréablement. Lorsque j'ai voulu revenir à ta lecture, je me suis aperçue qu'il n'était question que de choses inanimées, et je me suis placée derrière toi pour mieux te comprendre, en lisant le passage que ma distraction m'avait empêché d'entendre. Tu t'es laissé égarer par une expression comparative. Il n'est question dans ce livre que de terre et de minéraux. Mais l'homme est un véritable narcisse. Il se mire partout et voudrait que le monde entier reflétât ses couleurs. Rien n'est plus vrai, ajouta le capitaine. L'homme prête sa sagesse et ses folies, sa volonté et ses caprices, aux animaux, aux plantes, aux éléments, aux dieux. Je ne veux pas vous éloigner de l'objet qui captive en ce moment votre attention, dit Charlotte. Veuillez seulement m'expliquer le sens que l'on attache, dans le livre que nous lisons, au mot « affinité ». Je ne pourrais vous dire là-dessus, répondit le capitaine, que ce que j'ai appris il y a 10 ans environ. J'ignore si, dans le monde savant, on admet encore aujourd'hui ce qu'on enseignait alors. Rien n'est plus douteux, s'écria le baron. Nous vivons à une époque où l'on ne saurait plus rien apprendre pour le reste de sa vie. Nos ancêtres étaient bien plus heureux. Ils s'en tenaient à l'instruction qu'ils avaient reçue pendant leur jeunesse. Tandis que nous autres, si nous ne voulons pas passer de mode, nous sommes obligés de recommencer nos études tous les 5 ans au moins. « Les femmes n'y regardent pas de si près, » dit Charlotte. « Quant à moi, je me borne à vous demander l'explication de la valeur scientifique du mot dont vous venez de vous servir, parce qu'il n'y a rien de plus ridicule dans la société que de ne pas connaître toutes les acceptions des termes que l'on emploie. J'abandonne le reste aux discussions des savants, qui, l'expérience me l'a déjà prouvé plus d'une fois, ne sauraient jamais être d'accord entre eux. Le baron réfléchit un moment, puis il dit à son ami « Comment nous y prendrons-nous pour lui donner, sans préambule fatigant, une explication claire et précise ?»« Si madame voulait me permettre un petit détour, » répondit le capitaine, « nous arriverions très promptement au but. »« Comptez sur mon attention, » dit Charlotte en déposant l'ouvrage qu'elle tenait à la main. Le capitaine reprit. Ce que nous remarquons avant tout dans les diverses productions de la nature, c'est qu'elles ont entre elles des rapports déterminés. Il peut vous paraître bizarre de m'entendre dire ainsi ce que tout le monde sait, mais ce n'est jamais que par le connu qu'on peut arriver à l'inconnu. Sans doute, interrompit Édouard, laisse-moi lui citer quelques exemples vulgaires qui nous seconderont à merveille. L'eau, l'huile, le mercure ont dans chacune de leurs parties un principe d'unité et d'union. La violence ou d'autres incidents déterminés peuvent détruire cette union, mais elle reprend toute sa force dès que ses causes ont disparu. Rien n'est plus vrai, dit Charlotte. Les gouttes de pluie se réunissent et forment des rivières. Je me souviens même que dans mon enfance, j'ai souvent cherché à séparer une petite masse de vif argent, mais les globules se rapprochaient toujours malgré moi. Permettez-moi, continua le capitaine, de mentionner un point important dont vous venez de constater la vérité. C'est que le rapport pur, devenu possible par la fluidité, se manifeste toujours sous la forme de globules. La goutte d'eau et celle du vif argent sont rondes. Le plomb fondu même s'arrondit, s'il tombe d'assez haut pour se refroidir avant de toucher un autre corps. « Je vais vous prouver, dit Charlotte, que je vous ai deviné. Vous vouliez me dire que, puisque chaque corps a des rapports avec les parties dont il se compose, il doit en avoir aussi avec les autres corps. » Et ces rapports, reprit vivement le baron, ne sont pas les mêmes pour tous les corps. Les uns se rencontrent comme de bons amis, d'anciennes connaissances qui se confondent sans se réduire mutuellement à changer de nature, tels que l'eau et le vin. Les autres restent étrangers, ennemis même, en dépit du mélange, du frottement ou de tout autre procédé mécanique par lesquels on voudrait les unir, tels que l'eau et l'huile. En les secouant ensemble, on les confond un instant, mais elles se séparent aussitôt. Cette petite leçon de chimie, dit Charlotte, est presque l'image de la société dans laquelle nous vivons. J'y reconnais toutes les classes dont elle se compose. La noblesse et le tiers-état, le clergé et les paysans, les soldats et les bourgeois. Sans doute, reprit Édouard, et s'il y a dans cette société des lois et des mœurs qui rapprochent et unissent les classes naturellement opposées les unes aux autres, il y a dans le monde chimique des médiateurs qui rapprochent et unissent les corps qui se repoussent mutuellement. C'est ainsi, interrompit le capitaine, que nous unissons l'huile à l'eau par le sel alcali. N'allez pas si vite, messieurs, je veux rester au pas avec vous. Il me semble que nous touchons de bien près aux affinités. J'en conviens, madame, et c'est l'instant de vous les faire connaître dans toute leur force. Nous appelons affinité la faculté de certaines substances qui, dès qu'elles se rencontrent, les obligent à se saisir et à se déterminer mutuellement. Cette affinité est surtout remarquable et visible chez les acides et les alcalis, qui, quoique opposés les uns aux autres, et peut-être à cause de cette opposition, se cherchent, se saisissent, se modifient et forment ensemble un corps nouveau. La chaux, par exemple, a un penchant prononcé pour tous les acides. Quand notre laboratoire de chimie sera monté, nous ferons devant vous des expériences qui vous instruiront mieux que des mots, des noms et des termes techniques. Permettez-moi de vous faire observer, dit Charlotte, que si cette singulière faculté mérite le nom d'affinité, ce n'est pas du moins une consanguinité, mais une parenté d'esprit et d'âme. C'est ainsi qu'il peut y avoir parmi les hommes de sincères et réelles amitiés, car les qualités opposées n'empêchent pas les personnes qui les possèdent de se rapprocher et de s'aimer. J'attendrai, puisque vous le voulez, les expériences qui doivent me démontrer plus clairement les miraculeux effets de vos mystérieuses affinités. Maintenant, mon ami, continua-t-elle en s'adressant à son mari, reprends ta lecture, je l'écouterai avec plus d'intérêt qu'avant cette digression. Puisque tu l'as provoquée, répondit Édouard en soupirant, tu ne la termineras pas si vite. Il me reste à te parler des cas les plus compliqués et qui sont les plus intéressants. C'est par eux que l'on apprend à connaître les divers degrés des affinités et leurs rapports plus ou moins puissants ou faibles, plus ou moins intimes ou éloignés. Oui, les affinités ne sont réellement intéressantes que lorsqu'elles opèrent des séparations, des divorces. Ces vilains mots que l'on entend trop souvent prononcer dans le monde figurent donc aussi dans le vocabulaire de la chimie ? Sans doute, et cette science elle-même, lorsque la langue allemande n'avait pas encore adapté la foule de mots étrangers dont elle se sert aujourd'hui, s'appelait l'art de séparer. Chez Descartes. On a bien fait de lui donner un autre nom, et pour ma part, je préférerais toujours l'art d'unir à celui de séparer. Mais voyons, puisque vous le voulez, messieurs, citez-moi un exemple de ces malheureuses affinités qui engendrent des divorces. Nous continuerons à cet effet, dit le capitaine, à vous citer des exemples dont nous nous sommes déjà servis. Ce que nous appelons pierre calcaire n'est qu'une terre calcaire plus ou moins pure et très étroitement unie à un acide subtil que nous ne pouvons saisir que sous la forme d'air. En mettant un morceau de cette pierre dans de l'acide sulfureux liquéfié, cet acide s'empare de la chaux et se métamorphose avec elle en plâtre, tandis que l'acide subtil s'envole. Pourrait-on ne pas voir dans ce phénomène la séparation d'une ancienne union et la formation d'une union nouvelle? Nous appelons ces sortes d'affinités des affinités électives, car il y a eu choix, préférence, élection, puisqu'un ancien lien a été brisé afin qu'un autre lien qu'on lui a préféré ait pu se former. Pardonnez-moi, dit Charlotte, mais je ne vois rien là qui ressemble à une élection, à un choix. C'est tout au plus une nécessité de la nature ou un résultat de l'occasion qui a fait non seulement les larrons, mais encore les amis et les amants. Quant à l'exemple que vous venez de me citer, si l'on pouvait admettre qu'il y a eu en effet un choix, ce serait au chimiste qu'il faudrait l'attribuer, puisqu'il a rapproché les corps dont il connaissait les propriétés. Qu'ils s'arrangent, ces corps, ils m'intéressent fort peu. Je ne plains que le pauvre acide aérien réduit à errer dans l'infini. Il ne tient qu'à lui, répondit vivement le capitaine, de s'unir à l'eau et de reparaître en source minérale pour la plus grande satisfaction des malades et même de ceux qui se portent bien. Vous parlez comme pourrait le faire votre plâtre. Il n'a rien perdu, lui, puisqu'il s'est complété de nouveau. Mais l'infortuné souffle, banni, qui sait ce qui pourra lui arriver avant qu'il trouve à se caser une seconde fois? Édouard se mit à rire. Ou je me trompe fort, dit-il à sa femme, ou tu te moques de moi. Oui, oui, j'ai deviné ta malicieuse allusion. Tu me compares à la chaux, et notre ami le capitaine à l'acide sulfureux, qui, en s'emparant de moi, sous la forme d'acide sulfurique, m'a arraché à ta douce société et métamorphosé en plâtre réfractaire. Puisque ta conscience t'accuse ainsi, mon ami, je puis être tranquille. Au reste, les apologues sont toujours amusants, et tout le monde aime à jouer avec eux. Convient cependant que l'homme est au-dessus de toutes les substances de la nature, et que, si, en sa qualité de chimiste, il prodigue des mots qui ne devraient appartenir qu'aux relations du sang et du cœur, il faut du moins qu'en sa qualité d'être moral, il réfléchisse parfois sur la véritable acception des mots. N'oublions jamais que plus d'une union intime entre deux personnes heureuses de cette union a été brisée par l'intervention fortuite d'une troisième personne, et que cette séparation isole et désespère toujours une des deux premières. Les chimistes sont trop galants pour ne pas remédier à cet inconvénient, dit Édouard, car ils ont toujours à leur disposition une quatrième substance, afin que pas une ne se trouve réduite à l'isolement et au désespoir. Ces expériences, ajouta le capitaine, sont les plus remarquables. Elles nous montrent les attractions, les affinités et les répulsions d'une manière palpable et dans leur action croisée, puisque deux substances unies brisent, au premier contact de deux autres substances également unies, leur ancien lien pour former un lien nouveau de deux à deux avec les deux substances nouvellement survenues. C'est dans ce besoin d'abandonner et de fuir, de chercher et de saisir, que nous croyons reconnaître l'influence d'une destinée suprême, qui, en donnant à ces substances la faculté de vouloir et de choisir, justifie complètement le mot « affinité élective » adopté par les chimistes. « Citez-moi, je vous prie, un de ces cas, » dit Charlotte. « Je vous le répète, madame, ce n'est pas par des paroles, mais par des expériences chimiques que je me propose de satisfaire votre curiosité. Je ne veux pas vous effrayer par des termes techniques, mais vous éclairer par des faits. Il faut voir devant ses yeux les matières inertes en apparence et cependant toujours prêtes à agir selon les impulsions de leurs facultés intérieures. Il faut les voir, dis-je, se chercher, s'attirer, se saisir, se dévorer, se détruire, s'anéantir et reparaître, après une nouvelle et mystérieuse alliance, sous des formes nouvelles et inattendues. C'est alors seulement que nous pouvons leur accorder une vie immortelle, des sens, de la raison même, car nos sens et notre raison suffisent à peine pour les observer, pour les juger. Je conviens, dit Édouard, que les termes techniques, lorsqu'on ne vient pas à leur secours par des objets que la vue puisse saisir, ont quelque chose de fatigant, de ridicule même. Il me semble pourtant qu'en attendant mieux, nous pourrions donner à ma femme une idée des affinités électives en nous servant de lettres alphabétiques à la place de substances. Je crains que cette manière de s'exprimer ne vous paraisse trop pédantesque, dit le capitaine à Charlotte. Je m'en servirai pourtant à cause de sa précision. Figurez-vous A, si étroitement uni à B, que plus d'une expérience déjà a prouvé qu'ils étaient inséparables. Supposez les mêmes rapports entre C et D. Mettez les deux couples en contact, et vous verrez A s'unir à D et C à B, sans qu'il soit possible de dire lequel a le premier abandonné l'autre, lequel a le premier cherché et formé un lien nouveau. Puisque nous ne pouvons pas encore voir tout cela s'opérer sous nos yeux, s'écria Édouard, Tâchons, en attendant, de tirer de cette charmante formule un enseignement utile et applicable à notre position. Il est évident, ma chère Charlotte, que tu es A et que je suis B, dépendant de toi et très irrévocablement attaché à ta suite. Le capitaine représente le méchant C, qui m'attire assez puissamment pour nous éloigner, sur certains rapports, bien entendu. Il est donc très juste de te procurer un D qui t'empêche de te perdre dans le vague. Et ce D indispensable, c'est la pauvre petite Ottilie que tu es dans la nécessité d'appeler enfin auprès de toi. Ta parabole ne me paraît pas entièrement exacte, répondit Charlotte, mais je n'en sais pas moins très bon gré à tes affinités électives, puisqu'elles ont amené entre nous une explication que je redoutais. Oui, je te l'avoue, depuis ce matin, je suis décidée à faire venir Ottilie au château. Ma femme de charge m'a annoncé qu'elle allait se marier et par conséquent me quitter. Voilà ce qui justifie ma résolution, sous le rapport de mon intérêt personnel. Quant à l'intérêt d'Ottilie, tu vas en juger par ces papiers que je te prie de lire tout haut. Je te promets de ne pas y jeter les yeux pendant que tu les liras, mais je dois t'avertir que j'en connais le contenu. » À ces mots, elle remit à son mari les deux lettres suivantes. Chapitre 5. Lettre de la maîtresse de pension. Pardonnez-moi, madame, si je suis forcée d'être aujourd'hui très concise. La distribution des prix vient d'avoir lieu et je dois en faire connaître le résultat aux parents de toutes mes élèves. Au reste, je pourrais vous dire beaucoup en peu de mots. Mademoiselle, votre fille, a été toujours et en tout la première. Vous en trouverez la preuve dans les certificats ci-joints. Mademoiselle Luciane s'est chargée de vous donner elle-même les détails de cette distribution de prix et de vous exprimer en même temps la joie que lui causent ses éclatants succès, que vous ne pouvez manquer de partager. Mon bonheur serait sans égal si je n'étais pas forcée de me dire que bientôt on retirera de ma maison cette brillante élève à laquelle je n'ai plus rien à enseigner. Veuillez, madame, me continuer vos bontés et permettez-moi de vous communiquer sous peu un projet concernant mademoiselle votre fille. Il paraît réunir toutes les chances de bonheur que vous pouvez souhaiter pour elle. Le professeur qui a déjà eu l'honneur de vous parler d'Ottilie se charge de vous rendre compte de sa position actuelle. Lettre du professeur. La maîtresse du pensionnat m'a prié de vous instruire, madame, de tout ce qui concerne mademoiselle votre nièce, non seulement parce qu'il lui serait pénible de vous dire ce que vous devez savoir enfin, mais parce que, sous certains rapports du moins, elle vous doit des excuses qu'elle a préféré vous faire faire par mon organe. Je sais, plus que tout autre, combien la bonne Ottilie est incapable de manifester publiquement ce qu'elle sait et ce qu'elle vaut. Aussi ai-je tremblé pour elle à mesure que je voyais approcher la distribution des prix. Nous ne tolérons point dans notre institution les mille petites ruses par lesquelles on vient ailleurs au secours des jeunes personnes ignorantes ou timides. Au reste, Ottilie ne s'y serait pas prêtée. En un mot, mes sinistres pressentiments se sont réalisés. La pauvre enfant n'a pas eu un seul prix. Pour l'écriture, toutes ses camarades la surpassaient. Car si ses lettres, prises isolément, sont nettes et belles, l'ensemble manque de régularité et d'assurance. Elle calcule avec exactitude, mais beaucoup plus lentement que ses compagnes. Des examens sur des points plus importants où elle aurait pu se distinguer ont été supprimés faute de temps. Pour la langue française, elle s'est intimidée, tandis que d'autres, moins avancés qu'elle, parlaient, péroraient même sans se troubler. Quant à l'histoire, sa mémoire se refuse à retenir les dates et les noms. Et dans la géographie, elle oublie toujours les classifications politiques. En musique, elle ne conçoit que des mélodies touchantes et modestes que l'on n'a pas jugées dignes de faire entendre. Je suis persuadée qu'elle aurait emporté du moins le prix de dessin, car ses lignes sont correctes et pures, et son exécution soignée et spirituelle. Mais elle avait entrepris un travail trop grand, et il ne lui a pas été possible de le terminer. Lorsqu'avant de distribuer les prix, les examinateurs consultèrent les professeurs, je vis avec chagrin que l'on ne me parlait point d'Ottilie. J'espérais qu'un exposé fidèle de son caractère lui rendrait ses juges favorables, et je m'exprimais avec d'autant plus de chaleur que je pensais en effet tout ce que je disais, et que dans ma première jeunesse, je m'étais trouvé dans le même cas que mon intéressante protégée. On m'écouta avec attention, puis le chef des examinateurs me dit d'un air bienveillant, mais très décidé, « Les dispositions sont sous-entendues, et l'on ne peut les admettre que lorsqu'elles s'annoncent par l'habileté. C'est vers ce but que tendent et doivent tendre sans cesse les instituteurs, les parents et les élevés eux-mêmes. Le devoir des examinateurs se borne à juger jusqu'à quel point les professeurs et les élèves suivent cette route. Ce que vous venez de nous apprendre sur la jeune personne si mal partagée aujourd'hui nous fait bien augurer de son avenir, et nous vous félicitons sincèrement du soin que vous mettez à saisir les dispositions les plus cachées de vos élèves. Tâchez que l'année prochaine, celle de votre protégé puisse être visible pour nous, et notre suffrage ne lui manquera pas. » Après cette espèce de réprimande, je ne pouvais plus espérer de voir prononcer le nom d'Ottilie à la distribution des prix. Mais je ne croyais pas que cet échec dût avoir des résultats aussi fâcheux pour elle. La maîtresse du pensionnat, qui, semblable à une bonne bergère, veut que chacun de ses agneaux ait sa parure spéciale, n'eut pas la force de cacher son dépit lorsqu'après le départ des examinateurs, elle vit Ottilie regarder tranquillement par la fenêtre, tandis que ses camarades se félicitaient mutuellement des prix qu'elles avaient obtenus. « Au nom du ciel, lui dit-elle, apprenez-moi comment on peut avoir l'air si bête quand on ne l'est pas. » « Pardonnez-moi, chère mère, répondit tranquillement Ottilie, j'ai en ce moment mon mal de tête, et même plus fort que jamais. » Il est fâcheux que cela ne se voie pas, car on n'est pas obligé de vous croire sur parole, s'écria avec emportement cette femme que j'ai toujours vue si bonne et si compatissante. Puis elle s'éloigna avec dépit. Malheureusement, il est impossible, en effet, de s'apercevoir des souffrances d'Ottilie. Ses traits ne subissent aucune altération. On ne la voit pas même porter parfois la main sur le côté de la tête où elle souffre. Ce n'est pas tout encore. Mademoiselle, votre fille, naturellement vive et pétulante, exaltée par le sentiment de son triomphe, était ce jour-là d'une gaieté folle. Sautant et courant à travers la maison, elle montrait ses prix à tout venant et finit par les passer assez rudement sous les yeux d'Ottilie. Tu as bien mal dirigé ton char aujourd'hui, lui dit-elle d'un air moqueur. Sa cousine lui répondit avec calme que ce n'était pas la dernière distribution des prix. « Et que t'importe, tu n'en seras pas moins toujours la dernière !» s'écria votre trop heureuse fille en s'éloignant d'un bond. Tout autre que moi aurait pu croire qu'Ottilie était parfaitement indifférente, mais le sentiment vif et pénible contre lequel elle luttait se trahit à mes yeux par la couleur inégale de son visage. Je remarquai que sa joue droite venait de pâlir et que la gauche s'était couverte d'un vif incarnat. Je tirai la maîtresse du pensionnat à l'écart et je lui communiquai mes craintes sur l'état de cette jeune fille qu'elle avait si cruellement blessée. Elle reconnut la faute qu'elle avait commise et nous convînmes ensemble que je vous prierai en son nom de rappeler Ottilie près de vous, pour quelque temps du moins, car mademoiselle votre fille ne tardera pas à nous quitter. Alors tout sera oublié, et votre intéressante nièce pourra, sans inconvénient, revenir dans notre maison, où elle sera traitée avec tous les égards qu'elle mérite. Permettez-moi maintenant, madame, de vous donner un avis important. Je n'ai jamais entendu Ottilie exprimer un désir, et encore moins formuler une prière pour obtenir quelque chose. Mais parfois, il lui arrive de refuser de faire ce qu'on lui demande. Alors, elle accompagne ce refus d'un geste irrésistible dès qu'on en comprend la portée. Ses deux mains jointes, qu'elle élève d'abord vers le ciel, se rapprochent insensiblement de sa poitrine, tandis que son corps se penche en avant et que son regard prend une expression si suppliante que l'esprit le plus indifférent, le cœur le plus insensible, devrait comprendre que ce qu'on lui a demandé, n'importe à quel titre, lui est en effet impossible. Si jamais vous la voyez ainsi devant vous, ce qui n'est pas présumable, oh alors, madame, souvenez-vous de moi et ménagez la pauvre Ottilie. » Pendant cette lecture, Édouard avait souri malignement. Parfois même il avait hoché la tête d'un air de doute et s'était interrompu pour faire des observations ironiques.
« En voilà assez !»
s'écria-t-il enfin. « Tout est décidé, ma chère Charlotte. Tu vas avoir une aimable compagne. Cela m'enhardit à te communiquer mon projet. Écoute-moi bien. Le capitaine a besoin que je le seconde dans ses travaux, et je désire m'établir dans l'aile gauche qu'il habite, afin de pouvoir lui consacrer les premières heures de la matinée et les dernières de la soirée qui sont les plus favorables au travail. Cet arrangement te procurera en même temps l'avantage de pouvoir installer ta nièce commodément auprès de toi. » Charlotte ne s'opposa point à ce désir, et le baron peignit avec feu la vie délicieuse qu'ils allaient mener désormais. « Sais-tu bien, ma chère Charlotte, dit-il en s'interrompant tout à coup, que c'est bien aimable de la part de ta nièce d'avoir mal précisément au côté gauche de la tête, car je souffre fort souvent du côté droit. Si nos accès nous prennent quelquefois en même temps, je m'appuierai sur le coude droit, elle sur le coude gauche, et nos têtes suivront chacune une direction opposée. Te fais-tu une juste idée de la suave harmonie d'un pareil tableau ? » Le capitaine assura en riant que cette opposition apparente pourrait finir par un rapprochement dangereux. « Ne songe qu'à toi, mon cher ami !» s'écria gaiement Édouard. « Oui, oui, surveille-toi de près. Garde-toi du D. Que deviendrait le B si on lui arrachait son C ?»« Il me semble, » dit Charlotte, « que sa position ne serait ni embarrassante ni malheureuse. »« C'est juste, » répondit Édouard. « Il reviendrait tout entier à son A chéri. » Et se levant vivement, il pressa sa femme dans ses bras. Chapitre 6. La voiture qui ramenait Ottilie venait d'entrer dans la cour du château, et Charlotte s'empressa d'aller recevoir l'aimable enfant qui se prosterna devant elle et enlaça ses genoux.
« Pourquoi t'humilier ainsi ? »
dit Charlotte en la relevant d'un air embarrassé. « Je n'ai pas l'intention de m'humilier, » répondit Ottilie sans changer de position. « Mais j'aime à me rappeler le temps où ma tête s'élevait à peine à vos genoux, car alors déjà j'étais sûre de votre tendresse maternelle. » Charlotte la tira sur son cœur, puis elle la présenta à son mari et au capitaine, qui la reçurent avec une politesse affectueuse. Elle était belle, et la beauté trouve toujours et partout un accueil favorable. Ottilie écouta attentivement, mais elle ne prit aucune part à la conversation. Le lendemain matin, Édouard dit à sa femme « Ta nièce est très aimable, et sa conversation est fort amusante. »«
Fort amusante ? « Mais elle n'a pas ouvert la bouche !» répondit Charlotte en riant.
« C'est singulier !»
murmura le baron, comme s'il cherchait à recueillir ses souvenirs. Quelques indications générales sur les habitudes et les allures de la maison suffirent à Ottilie pour la mettre bientôt à même de la diriger, sans le secours de sa tante. Saisissant avec un tact merveilleux ce qui pouvait être agréable à chacun, elle donnait des ordres sans avoir l'air de commander. On lui obéissait avec plaisir, et lorsqu'elle s'apercevait d'un oubli ou d'une négligence, elle y remédiait sans gronder et en faisant elle-même ce qu'elle avait ordonné de faire. Ses fonctions de ménagère lui laissant beaucoup d'heures de loisirs, elle pria sa tante de lui aider à les employer à la continuation des études, qui, au pensionnat, occupaient toutes ses journées. Elle travaillait avec ordre et de manière à confirmer tout ce que le professeur avait dit de ses facultés intellectuelles. Pour donner plus d'assurance à sa main, Charlotte lui glissait des plumes déjà fatiguées, mais la jeune fille les retaillait aussitôt pour les rendre dures et pointues. Les dames étaient convenues de ne parler entre elles qu'en français. C'était un moyen d'exercer Ottilie en cette langue qui semblait avoir le pouvoir de la rendre plus communicative, parce qu'en employant cet idiome, elle accomplissait le devoir qu'on lui avait imposé de se le rendre plus familier par la pratique. Quand elle s'en servait, elle disait souvent plus qu'elle n'en avait l'intention. Le tableau spirituel, quoique toujours bienveillant, qu'elle faisait de la vie et des intrigues du pensionnat, amusa beaucoup Charlotte, et la bonté qui dominait dans tous ses récits, et que sa conduite justifiait, lui prouva que bientôt cette jeune fille serait pour elle une amie aussi sûre que fidèle. Voulant comparer les rapports du professeur et de la sous-maîtresse sur Ottilie avec ce que cet enfant disait et faisait sous ses yeux, Charlotte relisait souvent ses rapports. Selon ses principes, on ne pouvait jamais apprendre trop tôt à connaître le caractère des personnes avec lesquelles on devait vivre, parce que c'est le seul moyen de savoir ce que l'on peut craindre ou espérer de leur part. Quel travers il faut se résigner à pardonner, et de quels défauts il est possible de les corriger. Cet examen ne lui apprit rien de nouveau. Mais ce qu'elle savait sur son compte lui devint plus clair, et elle y attacha plus d'importance. Ce fut ainsi que la trop grande société de cet enfant lui donna des inquiétudes sérieuses. S'occupant avant tout de la toilette de sa nièce, Charlotte exigea qu'elle mît plus d'élégance et de richesse dans sa mise. À peine lui eut-elle exprimé ce désir que la jeune fille tailla elle-même les belles étoffes qu'elle avait refusé d'employer au pensionnat, et elle leur donna les formes les plus gracieuses et les plus variées. Ses vêtements à la mode rehaussaient les charmes de sa personne. Les grâces naturelles embellissent les costumes les plus simples. Mais lorsqu'une femme douée de ses grâces y ajoute des parures bien choisies et souvent renouvelées, ses séduisantes qualités semblent se multiplier et varier sous nos yeux. Cette innocente coquetterie, qui n'était chez Ottilie que l'effet de l'obéissance, lui valut l'attention spéciale d'Édouard et du capitaine. Tous deux éprouvaient en la regardant un plaisir doux et bienfaisant. Si, par sa magnifique couleur, l'émeraude réjouit la vue et exerce sur cet organe une influence salutaire, pourquoi la beauté de la forme humaine n'agirait-elle pas en même temps et avec une puissance irrésistible sur tous nos sens et même sur nos facultés morales? La simple contemplation de cette beauté ne suffit-elle pas pour nous faire croire que nous sommes à l'abri de tout mal et pour nous mettre en harmonie avec l'univers et avec nous-mêmes? Le séjour d'Ottilie au château y amena plus d'un changement favorable pour tous. Les deux amis ne se faisaient plus attendre pour les heures des repas ou des promenades.
Il se montrait surtout beaucoup moins empressé à quitter la table et ne parlait jamais que de choses qui pouvaient intéresser ou amuser la jeune fille. Ce désir de lui être agréable se révélait aussi dans le choix des lectures qu'il faisait à haute voix. Il poussait même l'attention jusqu'à suspendre ses lectures dès qu'elles s'éloignaient, et il ne les reprenait que lorsqu'elles rentraient au salon. Ce changement n'avait point échappé à Charlotte. Aussi désirait-elle savoir lequel des deux hommes l'avait principalement amenée, et se mit-elle à les observer avec une attention scrupuleuse. Mais elle ne découvrit rien, sinon que tous deux étaient devenus sociables, plus doux et plus communicatifs. Ottilie avait appris à connaître les habitudes et même les manies et les caprices de chacune des personnes au milieu desquelles elle vivait. Devinant mieux qu'elle-même ce qui pouvait leur être agréable, elle accomplissait leurs souhaits sans leur donner le temps de les exprimer. Un mot, un geste, un regard suffisait pour la guider. Cette persévérance active resta cependant toujours calme et tranquille. Le service le plus régulier se faisait par ses ordres, et souvent par elle-même, sans aucune apparence d'empressement ou d'inquiétude. Sa démarche était si légère qu'on ne l'entendait ni s'en aller ni revenir, et ses allures, quoique toujours paisibles, étaient si gracieuses que nos amis se sentaient heureux en la voyant se mouvoir sans cesse pour prévenir leurs désirs. Cette obligeance infatigable, ces attentions permanentes, devaient nécessairement plaire à Charlotte, ce qui ne l'empêcha pas de remarquer que, sur un point du moins, sa jeune parente poussait la prévenance trop loin, et elle lui en fit l'observation. « C'est sans doute une attention fort aimable, lui dit-elle, que de se baisser à l'instant pour relever un objet qu'une personne placée près de nous a laissé tomber par mégarde. Mais, dans la bonne société, cette attention est soumise à certaines règles de bienséance qu'il faut respecter. Tu es si jeune encore que tu peux, sans inconvénient, rendre à toutes les femmes ce petit service que l'on doit toujours aux personnes âgées ou d'un rang élevé. Envers ses pareils, il est une gracieuse politesse. Envers ses inférieurs, il devient une preuve de bonté et d'humanité. Mais il est une inconvenance de la part d'une femme envers des hommes encore jeunes, quel que soit leur rang. Je ferai tout mon possible pour ne plus m'en rendre coupable, répondit Ottilie. Permettez-moi cependant de mériter à l'instant même votre pardon de cette mauvaise habitude en vous racontant comment je l'ai contractée. J'ai retenu fort peu de choses du cours d'histoire qu'on m'a fait faire au pensionnat, parce que je ne concevais pas à quoi cette science pouvait m'être utile. Les faits isolés, seuls, sont restés dans ma mémoire, et je vais vous en citer un. Lorsque Charles Ier, roi d'Angleterre, se trouva devant ses prétendus juges, la pomme d'or de la canne qu'il tenait à la main se détacha et tomba par terre. Accoutumé à voir, en pareille circonstance, tout le monde s'empresser autour de lui, il regarda avec une surprise douloureuse les hommes au milieu desquels il se trouvait en ce moment, et dont pas un ne songea à relever cette pomme. Il fut obligé de la ramasser lui-même. Je ne sais si j'ai eu tort ou raison, mais cette anecdote m'a si fortement impressionnée, la position de ce roi m'a paru si cruelle, qu'il m'est presque impossible de voir tomber quelque chose sans le relever à l'instant. Cependant, puisque cela n'est pas toujours convenable, je me surveillerai désormais. Car, ajouta-t-elle en souriant, je ne pourrai pas expliquer ma conduite à tout le monde, comme je viens de le faire avec vous en racontant mon anecdote. » Le baron et le capitaine continuèrent à s'occuper de la réalisation de leurs projets de réforme et d'embellissement, et souvent des circonstances imprévues leur en suggérèrent de nouveau.
Un jour, qu'ils traversaient le village, ils ne purent s'empêcher de remarquer qu'il offrait un contraste aussi frappant que désagréable avec les jolis villages suisses dont ils avaient souvent admiré ensemble l'aspect riant et propre. Le capitaine fit observer à son ami que l'ordre et la propreté résultent naturellement de la nécessité d'utiliser un espace étroit.
« Tu n'as sans doute pas oublié, continua-t-il, que pendant notre tournée en Suisse, tu t'es promis d'établir, dans tes domaines, des hameaux semblables à ceux que tu y avais remarqués. Cette ressemblance ne devait pas consister dans la construction, mais dans l'ordre et la propreté qui règnent dans les chalets. »
« Je m'en souviens fort bien, répondit Édouard,
et je crois qu'il serait facile de réaliser cette intention. La montagne qui porte le château descend en angle saillant jusqu'au village, et ce village forme un demi-cercle assez régulier, à travers lequel serpente le ruisseau. Malheureusement, chaque pluie d'orage fait sortir ce ruisseau de son lit. Nos paysans se défendent contre ces petites inondations, chacun à sa façon. Loin de s'aider mutuellement, ils prennent à tâche de se contrarier et de se nuire. Nous venons de nous convaincre par nous-mêmes des inconvénients qui résultent de ce défaut d'harmonie. Presque à chaque maison, nous sommes forcés de descendre ou de monter brusquement. Et s'il était tombé de l'eau cette nuit, nous marcherions tantôt sur des amas de grosses pierres, tantôt sur des poutres entassées ou sur des planches vacillantes, et souvent même dans des mares bourbeuses. Si ces gens-là voulaient me seconder, il serait facile d'enfermer le ruisseau dans un lit muré, d'unir la route et d'élever des trottoirs de chaque côté des maisons. Par là, nous ferions disparaître la foule de petits inconvénients qui empoisonnent leur vie et donnent à leurs habitations et à l'ensemble du village un air de malpropreté et de confusion qui attriste. « Nous pourrions essayer, du moins, » dit le capitaine, en laissant errer ses regards autour de lui. Car déjà sa pensée calculait les avantages et les difficultés qu'offrait la situation du terrain.
Je n'aime pas avoir affaire aux paysans, surtout dans les cas où je ne puis pas leur donner des ordres positifs, répliqua Édouard.
Tu n'as pas tort, répondit le capitaine, et je conviens que de semblables entreprises m'ont causé plus d'un chagrin. Les hommes comprennent en général très difficilement l'importance d'un petit sacrifice en faveur d'un grand avantage. Il est rare de tendre vers un but sans dédaigner les moyens qui peuvent y conduire. Souvent même, ils se trompent aussi complètement sur les moyens que sur le but. Persuadés qu'il faut remédier au mal à la place où ils le voient et où ils le sentent, ils s'inquiètent fort peu du point d'où part son action malfaisante. Au reste, ce point est presque toujours insaisissable pour la multitude dont l'intelligence, souvent très grande pour l'instant actuel, ne va jamais jusqu'à prévoir le lendemain. Ajoute à cela que les réformes qui favorisent le bien-être général froissent toujours quelques intérêts particuliers, et tu comprendras sans peine pourquoi il est si difficile de les exécuter quand on n'est pas armé du pouvoir d'une souveraineté absolue. Pendant qu'ils s'entretenaient ainsi, un homme robuste, d'un extérieur effronté, leur demanda l'aumône. Édouard, qui n'aimait pas à être interrompu, chercha plusieurs fois à s'en débarrasser tranquillement et finit par l'apostropher avec emportement. Le mendiant se retira à petits pas et en injuriant les deux amis. Il poussa même l'audace jusqu'à les menacer de Dieu et des lois, qui, disait-il, protègent le mendiant aussi bien que le grand seigneur. Il ajouta que lorsqu'on avait le cœur dur, on pouvait refuser un pauvre, mais qu'on n'avait pas le droit de l'insulter. La colère aurait sans doute fait commettre au baron quelque imprudence,
si son ami n'avait pas cherché à le calmer.
« Que ce fâcheux incident, lui dit-il, devienne pour nous une leçon utile. Prenons une mesure sage et prudente qui en rende le retour impossible. Tu ne peux te dispenser de faire l'aumône aux pauvres qui passent les terres. Mais il n'est ni nécessaire ni prudent de distribuer tes dons toi-même ni chez toi. Il faut être juste et modéré en tout, même dans la bienfaisance. Des dons trop fréquents et trop considérables sont plutôt un appât qu'un secours pour le pauvre, tandis qu'il est juste et bon de lui apparaître parfois sur la route, sous la forme d'un hasard heureux qui lui procure un soulagement momentané. J'ai conçu à ce sujet un projet dont la situation du château et du village rend l'exécution très facile. Le cabaret est situé à l'une des extrémités du village. À l'autre demeure un vieux couple, honnête et sédentaire. Dépose dans ces deux maisons une petite somme que tu renouvelleras périodiquement et dont chaque mendiant qui passera aura sa part. Il faudra surtout qu'elle lui soit remise, non en entrant, mais en sortant du village.
« Viens, dit Édouard, et arrangeons cela à l'instant. Il sera temps plus tard de nous occuper des détails. »
Ils se rendirent aussitôt chez l'aubergiste, puis chez le vieux couple, et la sage mesure proposée par le capitaine eut un commencement d'exécution. « Tu viens de me prouver de nouveau, dit le baron en reprenant le chemin du château, que tout en ce monde dépend d'une bonne pensée et d'une forte résolution. C'est ainsi qu'en jugeant sainement et au premier coup d'œil les promenades et les plantations de ma femme, tu m'as suggéré des idées pour corriger ses méprises. Je me suis empressé de les lui communiquer et... Oh, je m'en suis aperçu, interrompit le capitaine en riant. Et tu as fait là une grande faute, car tu l'as offensée, blessée même, sans la convaincre. Depuis le jour où tu lui as fait cette imprudente révélation, elle a entièrement abandonné des travaux qui lui procuraient une distraction agréable. N'as-tu pas remarqué qu'elle ne nous mène plus jamais dans la cabane de mousse, qu'elle visite parfois en secret avec Ottilie?
Cette petite bouderie ne me décourage point. Quand j'ai la certitude qu'un projet est utile et bon, je n'ai de repos que lorsqu'il est exécuté. Avec un peu d'adresse et beaucoup de prévenance, nous parviendrons facilement à faire adopter à Charlotte nos manières de voir. Montrons-lui d'abord la nouvelle carte de mes domaines que tu viens d'achever. Tu arriveras ensuite avec des dessins et des gravures représentant des établissements et des promenades qui pourraient trouver place sur ce plan. Commençons par des suppositions et des plaisanteries qu'il nous sera facile de convertir en entreprise réelle. D'après cette convention, on chercha les livres dans lesquels se trouvaient les plans de la contrée, sous le rapport rural, et dans son état naturel. Puis on indiqua sur des feuilles séparées les changements que l'art pourrait lui faire subir, en profitant sagement des avantages qu'elle offrait déjà, et en créant des beautés nouvelles. Le passage de ces suppositions à leur réalisation devenait facile. C'était une occupation agréable que de prendre la carte du capitaine pour base de tous ses projets. Mais on ne s'arracha qu'avec peine aux premières idées d'après lesquelles Charlotte avait dirigé ses plantations. On finit cependant par trouver une route plus facile pour arriver au haut de la montagne. Sur le penchant de cette montagne, à l'entrée d'un petit bois, on se proposa de construire une maison d'été qui devait communiquer avec le château, par la vue du moins, car il était convenu que des fenêtres de l'une, le regard embrasserait l'autre. Après avoir bien pris ses mesures, le capitaine parla de nouveau d'un chemin à travers le village et d'un mur qui maintiendrait le ruisseau dans son lit. Un chemin plus commode, creusé dans la montagne, dit-il, me fournira les pierres nécessaires pour ce mur. Dès que les entreprises se tiennent et s'enchaînent, tout se fait plus facilement, plus vite et à moins de frais.
Le reste me regarde, dit Charlotte.
Il faudra avant tout se faire une juste idée des dépenses. Lorsque nous serons d'accord sur ce point, nous les diviserons, sinon par semaine, du moins par mois. La caisse sera sous ma direction. Je paierai les mémoires et je tiendrai les comptes.
Il paraît, dit Édouard en souriant, que tu n'as pas beaucoup de confiance en notre modération.
J'en conviens, mon ami. Les femmes accoutumées à se dominer toujours savent beaucoup mieux que vous autres, messieurs, renfermer leur volonté et leurs désirs dans les bornes de la raison et du devoir.
Les mesures préliminaires furent bientôt prises et les travaux commencèrent. Le capitaine les dirigea seul et Charlotte, que la curiosité amenait sans cesse sur les lieux où s'exécutaient ces travaux, ne tarda pas à se convaincre de la supériorité de cet homme, dans lequel, jusque-là, elle n'avait vu qu'un être ordinaire. De son côté, le capitaine, en voyant plus souvent et plus intimement la femme de son ami, apprit à la connaître et à l'apprécier. Tous deux se demandaient des conseils et des avis. Ils se communiquaient les motifs de leur manière de voir, et bientôt, ils n'avaient plus qu'une seule et même opinion. Il en est des affaires et des relations sociales comme de la danse. Les personnes qui vont toujours en mesure ensemble se deviennent bientôt indispensables et se sentent entraînées l'une vers l'autre par une bienveillance réciproque. Charlotte était tellement sous l'empire de ce charme qu'elle n'éprouva ni chagrin ni regret lorsque le capitaine détruisit un de ses lieux de repos favoris et qu'elle s'était plu à décorer de toutes les beautés champêtres. Cette retraite gênait son amie dans l'exécution de ses plans, et elle y renonça sans chagrin.